sortie de boîte, Alizé Lichty.
C'est un peu l'adresse introuvable, l'endroit bien caché, le repère où l'on fabrique des objets rares. Je suis à Cormondrèche, pourtant à l'adresse indiquée par mon interlocuteur. Là, je me souviens qu'il m'a dit que son antre se situait derrière une imprimerie. Effectivement, après avoir longé cette grande bâtisse par la gauche, me voici dans une cour arrière. Là, aucun doute, mon invité me fait signe par la fenêtre. Je suis arrivée à bon port. Je découvre donc les locaux dans une petite maison refaite il y a quelques années. Une grande pièce aérée, deux bureaux, une table de conférence, quelques meubles et un tas de cartons. Mon invité venait-il d'emménager dans ces murs ? Non, me dira-t-il, il venait simplement de recevoir une commande. Il a l'air détendu, souriant et porte des habits sombres mais classe. En tournant la tête à droite, je découvre soigneusement rangé le matériel et la matière qu'il affectionne tant. Des cadrans, des bracelets, des boîtes et bien évidemment des montres. Parce que notre invité a créé une pièce rare au coût abordable. C'était son rêve un peu fou, mais songe qu'il vient tout juste de réaliser. Être constructeur dans l'habillage horloger, est-ce que vous savez ce que c'est ? Moi j'en avais une vague idée, mais maintenant je suis fixée. En tout cas, une chose est sûre, ça lui colle à la peau. Il se décrit volontiers comme quelqu'un de perfectionniste, têtu et ouvert. Thierry Clotu, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes donc un concepteur d'habillage horloger indépendant de 37 ans. Thierry Clotu, qui a déclenché votre passion pour les montres ?
Alors ma passion pour les montres, elle a débuté déjà par le biais du fait que j'étais à l'école d'ingénieur en microtechnique. Et puis le dernier tronc de mes études, il y avait une spécialisation qui devait être mise en place. Et puis j'ai choisi donc construction en horlogerie. Directement.
Et votre papa vous avait également fait cadeau d'une montre à l'âge de 18 ans.
Voilà, exactement. À mes 18 ans, mon père m'a offert une belle montre mécanique. Alors à l'époque, c'était une Auguste Raymond, un chronographe. Et j'étais fasciné par les mécanismes, ce qui était sur le fond de la montre. Et puis j'étais, voilà.
Vous êtes concepteur d'habillage horloger, c'est quoi ?
Alors, concepteur d'habillage horloger, en fait... Moi, je m'occupe des marques de montres ont des designs qui sont posés et puis ils ont besoin de compétences pour développer le produit, pour le rendre réalisable, donc le produire en vrai, directement. C'est pas que du dessin, c'est de la construction technique. Et derrière, voilà, ils ont besoin de dossiers de plans, puis de tout le matériel nécessaire pour lancer une production.
Après plusieurs expériences au sein de grandes marques dans la région, quel a été le déclic de se lancer seul ?
Alors le déclic, il n'est pas venu tout de suite. En fait, il est venu un petit peu au compte-gouttes avec les années. Voilà, j'ai senti après un peu plus de 10 ans passés dans le milieu que j'avais besoin de voler de mes propres ailes et puis de voir peut-être un autre aspect du métier et puis d'expérimenter l'indépendance et puis de tout ce qui va avec autour, quoi.
Donc en 2012, vous vous lancez depuis chez vous dans divers mandats. Tout n'a pas été simple, hein, au début, on l'imagine. Comment est-ce que vous vous êtes organisé dans un premier temps ?
Alors au début, c'est délicat parce qu'on n'a pas beaucoup de mandats, donc on en a très peu. Et puis du coup, les revenus financiers sont moindres. Donc j'ai débuté mon activité en travaillant directement à la maison. Donc je m'étais établi un petit bureau de fortune avec mon ordinateur. Et puis je travaillais pour mes clients à ce niveau-là, avec mes filles qui me couraient dans les pattes. Donc c'est sûr qu'à long terme, ce n'était pas viable parce que même si j'adore mes filles et puis elles sont juste merveilleuses... quand on doit inviter un client et puis discuter d'un projet, c'est toujours très compliqué.
Et puis, à vos heures perdues, vous vous êtes mis sur un projet un peu fou. Au début, c'était juste des croquis ?
Oui, alors au début, c'était des idées. À mes heures perdues, j'essayais de combler le temps avec un projet qui me tenait à cœur depuis quelques années maintenant. Je me disais qu'un jour ou l'autre, je ferais ma montre à moi. Puis voilà, donc ce qui a débuté pour être juste des idées, c'est devenu plus concret à long terme, voilà.
Vos produits, vous les avez appelés Dawn Watches. Pourquoi ce nom ?
Alors, Dawn Watches, en fait, c'est... Il y a un double sens. La première, c'est pour dire, c'est une notion d'accomplissement, de dire que je l'ai fait, it's done. Donc ça, c'était vraiment, quand j'en parlais avec ma compagne, je disais, mais comment je pourrais appeler ma marque de montre ? Elle me disait, mais qu'est-ce que tu veux vraiment exprimer avec cette marque ? Et puis je voulais juste dire, en fait, je l'ai fait. Donc si on se donne les moyens, puis qu'on veut vraiment arriver sur quelque chose, on y arrive. Puis à côté de ça, il y a un double sens, parce que il y a la notion de Neuchâtel, aussi les anagrammes de Neuchâtel, done in Neuchâtel, donc voilà, c'était un double sens.
À quel moment est-ce que vous vous êtes dit, je vais tenter de commercialiser ma montre ?
Alors en fait, le projet donc, a démarré déjà par une étude technique, hein, donc des croquis, ensuite une étude technique sur l'ordinateur, et puis après bah, j'ai commencé à présenter un peu mon projet à des amis qui s'intéressent évidemment à l'horlogerie, et puis ils m'ont dit « mais bah, tu devrais te lancer, tu devrais la faire, vraiment elle est très belle, lance-toi quoi ». Et c'est comme ça que c'est parti.
Alors les montres, il y en a de toutes les sortes, de toutes les couleurs et à tous les prix. Dans un environnement aussi concurrentiel, comment vous vous êtes différencié ?
Alors, voilà, le but, moi, c'était vraiment de créer un modèle qui était, qui pourrait perdurer dans le temps. Donc moi, c'était vraiment quelque chose de faire un design type moderne, mais qui soit pas complètement désuet dans 2 ans. Donc ma montre, dans 10 ans, elle sera toujours d'actualité. Enfin, c'est l'avis que j'ai en tout cas, et puis c'est les retours que j'ai de mes clients. Et puis c'est peut-être à ce niveau-là, faire une montre simple, mais efficace, et puis voilà, qui perdure dans le temps.
Alors, il y a eu l'idée. Ensuite, il y a quand même un souci financier. Vous êtes entrepreneur indépendant. Comment avez-vous fait pour financer votre montre ?
Alors, c'est le nerf de la guerre, hein, c'est l'argent. Voilà, au début, j'avais une idée de faire juste 50 montres, une petite série. Et puis, bah, la réalité, elle est vite là. Hein. Quand on s'approche des fournisseurs, ils nous disent « Non, mais écoutez, avec 50 pièces, ils rentrent même pas en considération. » Donc, tout de suite, c'était entre 150 et 250 pièces. Au début, j'ai tablé sur 150. Et puis au final, c'est 250 qui s'est fait.
Et puis, vous avez utilisé une plateforme Internet, c'est ça ?
Voilà, exactement. C'est-à-dire, pour obtenir le financement, pour débloquer les commandes, pour acheter mes composants, bah, j'ai utilisé la plateforme de crowdfunding Kickstarter, qui m'a permis de me lancer et puis de me faire quelque part aussi connaître bah, dans le monde entier, quoi.
Est-ce que ça a été suffisant ?
Alors oui, ça a été, en tout cas, sur un mois, j'ai doublé mon besoin en financement. Donc oui, c'était efficace, ça a très bien fonctionné, et puis ça a fait parler de mes montres également.
Est-ce que vous recommanderiez cette plateforme à des entrepreneurs dans votre genre, également dans l'horlogerie par exemple ?
Ah oui, moi j'invite alors tout le monde à utiliser ce type de financement. D'ailleurs, il n'y a pas que les montres. Hein. Le financement participatif maintenant cartonne très très fort pour plein de secteurs. Après, il faut être bien armé, parce que faire une campagne sur Kickstarter, ça paraît simple, parce que voilà, c'est que du texte, mais il faut quand même penser à toutes les étapes. Moi, je ne compte pas le nombre d'heures que j'ai passé la nuit à retaper et puis à réfléchir à la façon dont j'allais en parler.
Votre montre, ou plutôt votre prototype, vous l'avez livré dans plusieurs pays. Est-ce que ça, vous vous y attendiez ?
Alors, Kickstarter étant une plateforme américaine, j'imaginais bien, la communauté est très internationalisée, les gens qui vont là-bas donc viennent de partout dans le monde. Maintenant, je ne m'attendais pas à livrer mes montres dans 26 pays différents. Donc voilà, j'ai livré mes montres autant en Suisse, j'ai eu beaucoup d'acteurs qui venaient de Suisse, mais j'ai eu des clients également en Malaisie, Singapour, Norvège, Finlande, Brésil, Canada, vraiment partout dans le monde.
C'est un peu une fierté que votre montre, elle soit portée en Malaisie, par exemple ?
Ah oui, mais ça me fait plaisir, parce que je vois que le design, il n'est pas juste... Il n'est pas juste pour, quelque part, les gens de la région qui sont férus d'horlogerie, mais pour le monde entier. Donc, c'est très bien.
Alors, Thierry Clotu, il y a le produit fini. Penchons-nous maintenant sur sa production. Où cette série de montres a-t-elle été conçue ?
Alors, au niveau de la conception technique, donc, tout a été fait dans mes bureaux, donc à Cormandrèche. Derrière le mouvement, donc moi j'insistais, je voulais vraiment faire une montre suisse-made, donc le mouvement est de production suisse, donc de ETA, qui est voilà, la référence en termes de développement mouvement et puis de vente sur le marché, en tout cas le gros acteur actuellement sur le marché. Et puis la décoration du mouvement se fait donc à Saint-Imier, avec un partenaire qui est DM Surface, donc je ne le cache pas. Et puis bah, tous les composants d'habillage sont faits en Asie.
Vous avez dû vous rendre en Asie pour vérifier ?
Oui, alors justement, alors, c'est une chose de faire ces composants en Asie, après si on n'est pas derrière, pour suivre tout ce qui se passe, ça part vite quelque part en cacahuète, si je puis dire. Donc vraiment, il a fallu être présent, il a fallu taper sur la table pour dire non, c'est pas comme ça que je veux la qualité, les polis doivent être comme ça. J'ai recommencé 3 fois les étampages de mes boîtes. Donc c'était pas simple, il faut être présent. Et puis voilà, le savoir-faire, il est quelque part, il est là, quoi.
Vous vous êtes rendu combien de fois en Asie ?
Ah, je me suis rendu 2 fois en Asie pour cette production.
Et puis, donc, vous l'avez dit, hein, l'autre partie de la production est faite en Suisse. Vous respectez donc le Swiss Made ?
Oui, alors tout à fait. C'est-à-dire, depuis début d'année, maintenant, le Swiss Made a un petit peu évolué. Maintenant, il faut que 60% du prix de revient de la tête de montre soit suisse. Donc, moi, avec un mouvement suisse décoré main en Suisse, avec un assemblage en Suisse, je respecte tous les critères pour le Swiss Made.
Ça aussi, vous le souhaitiez vraiment ?
Oui, à moi c'était important également que je puisse faire participer à l'économie locale. C'est-à-dire, je travaillais avec un horloger qui est à Saint-Sulpice. Comme je l'ai dit tout à l'heure, avec la décoration à Saint-Imier, un mouvement suisse. Ensuite, aussi pour la plateforme, pour la plateforme de financement participatif, tout ce qui s'est fait en termes de communication pour le film. J'ai travaillé avec la société Brief Communication à Neuchâtel. Donc voilà, il y a tous des acteurs locaux qui, ça me tenait à cœur de travailler avec ces personnes-là.
Votre atelier, on l'a dit, se trouve à Cormandrèche. C'est là que vous créez, que vous innovez. Joël Picromain est venu vous rendre visite quand on se lance sa propre marque horlogère. Évidemment, la montre est importante, mais la présentation l'est tout autant, comme vous allez nous le confirmer.
Sortie de boîte.
Oui, alors moi, je crois que c'est vraiment, vraiment super important. Je voulais vraiment que les gens se disent « waouh ». Moi, ce que je voulais, dans le cas présent, c'était offrir un coffret avec un écran cuir de voyage dedans, plus la possibilité au client de changer son bracelet à sa guise. Donc c'est pour ça ici, vous regardez dans l'écran ici. Voilà, donc on voit, il y a une contre-boîte de protection autour, voilà exactement. Et puis une fois que vous l'ouvrez, ben vous avez le logo Dunwatches ici. Vous avez la petite marmotte en cuir avec son coussin à l'intérieur, avec un petit bouton pression pour pouvoir prendre sa montre en vacances ou bien en voyage. Puis à côté de ça, donc chaque montre est vendue sur un bracelet cuir. Et puis gratuitement, le client a le choix entre deux types de bracelets NATO. C'est un objet qui est revenu à la mode depuis quelques années, qui est également très célèbre avec la montre de James Bond, entre autres, pour ne pas citer de marque. Puis c'est des objets qui sont très facilement interchangeables. Donc c'est vite vu, hein, on enlève le bracelet, comme ça, facilement. On prend la petite barrette qu'on vient directement poser à l'entrecorne. Voilà, et de une. Ensuite, vous ouvrez votre bracelet NATO, comme ça. Vous glissez le bracelet dedans. Un truc mémotechnique pour se rappeler en fait de quel sens on doit mettre toujours son bracelet, parce qu'il y en a beaucoup qui me le demandent. En fait, c'est tout simple. Il faut vous imaginer que vous vouliez suspendre votre montre à un crochet. En fait, donc la boucle est toujours en haut, voilà. Donc en gros, c'est un peu ça. Après, vous passez ici, et voilà. Puis là, vous avez une pièce qui est montée sur bracelet NATO. Donc vous pouvez aller dans l'eau avec, sans souci. Les pièces sont étanches 10 ATM, donc 100 mètres.
Sortie de boîte.
Un reportage que vous retrouvez dans sa version intégrale sur notre site internet. Retour dans les studios à Marin avec Thierry Clotu. Votre montre est modulaire. Est-ce que vous pensez que c'est l'avenir ?
Oui, alors je pense que vraiment, on peut dire que l'avenir, c'est ça, c'est d'offrir au client un maximum de possibilités de customiser sa montre. C'est quand même génial d'avoir sa montre et puis de se dire le matin, je suis en costard, j'ai envie de mettre un beau cuir brun et puis... je sais pas, l'après-midi, je vais à la plage, donc je mets un bracelet NATO. Pouvoir changer le look de sa montre à sa guise, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à prendre là-dessus. Ouais.
Pour vous, l'idéal sur une montre, ça serait d'avoir combien de bracelets interchangeables ?
Ah, je pense que 3, ce serait bien. Un bracelet cuir, un bracelet métal et un bracelet type NATO, par exemple, ou d'autres, hein, en tissu. Vraiment, nos limites.
Chose assez exceptionnelle, on en reparle, de cette crise horlogère. Vous, Thierry Clotu, vous me l'avez affirmé, la crise horlogère, ça ne vous touche pas. Comment vous l'expliquez ?
Alors après, le moyen dont je vends mes montres est vraiment différent. C'est-à-dire, moi, j'utilise pas la distribution classique. Aujourd'hui, moi, je fais que de la vente sur Internet. Donc, je suis pas directement soumis à vendre mes montres à un distributeur qui lui-même va les vendre à un détaillant. Donc, faisant de la vente en direct chez le client, il y a un rapport qui est beaucoup plus rapide. Et puis, moi, je sais pas si c'est pour ça. En tout cas, moi, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, je vends mes montres, elles continuent à se vendre. Et puis, je subis pas vraiment la crise dont tout le monde parle.
C'est un peu votre recette gagnante, la vente par Internet ?
Mais je pense qu'à terme, il y a beaucoup de gens qui vont partir dans ce moyen de distribution. Maintenant, c'est délicat parce que les marques qui sont déjà bien établies aujourd'hui sur le marché, qui ont des acteurs, des distributeurs partout dans le monde, c'est compliqué de partir maintenant pour faire de la vente directe. Moi, j'ai cet avantage, c'est que je débute. Donc, c'est vraiment le tout début. Et puis, faire de la vente en direct, je ne suis pas du tout bridé en fait, par rapport à ça.
Qui sont vos concurrents ?
Mes concurrents, si je pouvais dire des marques, ce serait des marques type Tissot, Hamilton, ce type de marques, ouais, ou Louis Erard, par exemple.
Plutôt des grandes marques, donc ?
Non, c'est plutôt des marques accessibles. Voilà, si quelqu'un maintenant devait hésiter avec ma montre, il pourrait hésiter avec ce type de marque. Voilà.
Quel risque est-ce que vous voyez pour votre entreprise ?
Aucun.
Pourquoi ? Non,
je vois pas vraiment de risque aujourd'hui parce que j'ai une part de risque qui est assez faible quelque part. J'ai commandé mes composants, maintenant ils sont achetés. J'ai un stock qui est donné. J'ai un stock suffisant pour en cas de retour SAV, s'il doit y en avoir. Voilà, c'est assez facile en fait. J'ai pas des employés que je dois payer. Comme je travaille en tout seul pour Don Watches, c'est assez facile. Quoi.
Là, vous avez vendu tant de montres grâce à votre site internet. Vous en avez encore en stock ? Vous pouvez encore en vendre à l'heure actuelle ?
Alors aujourd'hui, j'en ai plus en stock. En tout cas, à la vente. J'ai tout vendu. Et puis, le nouvel arrivage devrait arriver d'ici fin mars.
On reste dans le domaine de l'horlogerie avec une entreprise qui a subi la dégringolade du marché, mais qui a survécu. Marie-Lise Saillard nous parle de la manufacture française Pékinier.
Pile à l'heure.
L'histoire du jour, c'est un peu celle d'un phénix, pékinier et comme l'oiseau légendaire qui renaît de ses cendres. Cette semaine, le dernier représentant de la haute horlogerie française, une nouvelle fois menacé de mort, a sauvé sa peau. Retour sur une aventure qui a commencé en 1973. Nous sommes en Franche-Comté, dans le Doubs,
bienvenue dans le 2-5, man,
à Morteau, à quelques encablures de la frontière avec la Suisse. La ville est célèbre pour sa fameuse saucisse.
La saucisse de Thomor, Thomor.
Mais elle a aussi une longue tradition horlogère. En 1973, donc, Émile Pékinier fonde la marque qui porte son nom et qu'il signe de ses initiales EP. La maison se distingue grâce à des collections féminines plusieurs fois primées. Et en raison de la passion de son fondateur pour les chevaux, la maison devient très présente dans le milieu équestre des années 1980-1990. Dans les années 2000, Émile Pékinier part à la retraite et c'est Didier Leibungut, un ancien de chez Zenith, qui rachète l'entreprise. Commence alors une assez longue période mouvementée, avec des hauts et des bas, comme sur les chevaux de bois. Du prestigieux hall numéro 1 de Baselworld, où Pékinier exposait il n'y a encore pas si longtemps, aux côtés de Rolex ou de Breguet, la marque s'est petit à petit éloignée du pôle principal du plus grand salon horloger du monde et son stand a diminué, comme Alice au Pays des Merveilles qui avale le mystérieux contenu d'une bouteille. En 2011, Pékinier sort son premier mouvement mécanique, le Calibre Royal, présenté comme 100% français. Mais de sources non officielles, la base de ce mouvement serait suisse avec le concours de l'entreprise Tissot. Bref, en tout cas, cette innovation technique pour laquelle 8 brevets internationaux ont été déposés est largement saluée. En 2012, l'entreprise Pékinier est placée en redressement judiciaire. Deux investisseurs français fortunés, Philippe Sprour et Laurent Katz, la reprennent. Laurent Katz qui annonce son départ en mai 2016. Fin novembre dernier, l'entreprise qui emploie alors 42 personnes à Morteau est placée en redressement judiciaire. Cette année, début février, 4 offres ont été déposées auprès de l'administrateur judiciaire. Le tribunal de commerce de Besançon en a examiné 2. Et on l'a appris il y a 3 jours, c'est finalement l'offre de reprise de 4 salariés de l'entreprise Pékinier qui l'emporte. Sur les 38 collaborateurs encore présents, la société par action simplifiée n'en garde que 16.
Ça s'en va et ça revient.
Pile à l'heure.
Thierry Clotu, quelle est la suite pour vous ?
Alors la suite, j'ai plein d'idées en tête. J'ai beaucoup d'idées en tête. Donc aujourd'hui, je travaille sur un développement que j'ai envie un petit peu de garder secret parce que je vais le présenter un peu sous la table à Bâle. Mais j'ai tellement d'idées. Le problème que j'ai aujourd'hui pour développer, c'est que il faut du financement, encore une fois. Moi, aujourd'hui, le seul financement que j'ai, c'est sur la base des ventes que je fais de mes montres. Et puis voilà. Donc j'ai plein d'idées, mais
Est-ce que vous allez créer une nouvelle montre ?
Alors, je pense dans un premier temps, je vais rester dans la même collection pour un petit peu rationaliser les coûts que j'ai déjà payés en termes d'outillage pour la boîte en question. Mais à terme, voilà, il y a des modèles automatiques qui vont venir, parce qu'aujourd'hui, ma pièce est mécanique, collection Mechanica. Et pourquoi pas une pièce d'âme à venir. J'ai eu beaucoup de retours de personnes qui étaient intéressées puis qui m'ont dit, ah ben, si tu fais une montre pour d'âme, je t'en prends une.
Vous parlez d'un modèle automatique, ça c'est des gens qui vous ont vraiment fait cette demande-là ?
Oui, en fait, il y a beaucoup de personnes qui sont un petit peu réfractaires à l'idée de le matin se lever et puis remonter sa montre, comme à l'époque, hein, les montres de poche. Moi, ça me tenait à cœur parce que c'est c'est le tout début de l'horlogerie, c'était ça. Et puis, c'était retombé dans ce côté... c'est un rituel le matin quand je me lève et puis que je remonte ma montre, je sais qu'elle m'accompagne et puis je l'ai remontée, j'ai participé à sa marche le matin. Et puis, il y a un retour des gens qui me disent que pour eux, ça va pas, donc il leur faut une montre automatique, donc c'est sûrement le prochain développement. Oui.
Est-ce qu'on pourra vous voir à Baselworld à la fin du mois ?
Alors peut-être si les gens me connaissent de vue, ils me verront dans les couloirs et puis ils me diront « Ah, c'est Thierry Clotu qui a monté sa marque ». Mais non, je n'aurai pas de stand à Bâle, je n'ai pas les moyens pour ça aujourd'hui. Et puis mon but, c'est pas de je veux grandir tranquillement, sûrement, mais tranquillement, et puis prendre le temps. Par contre, j'aurai des montres avec moi et puis je veux bien les présenter à qui a envie de les voir.
Un stand à Baselworld, c'est peut-être un but à plus long terme ?
Oui, pourquoi pas. C'est quelque chose. Je me suis même pas encore posé la question pour dire franchement. Maintenant, c'est pas exclu qu'une marque qui est intéressée et puis qui d'un coup partager un stand avec moi. Pourquoi pas. C'est de la musique d'avenir. Aujourd'hui, encore une fois, je suis pas pressé. Je prends les choses step by step et puis on verra.
Vous avez réalisé votre rêve. Hein. Que conseilleriez-vous à un jeune qui a les mêmes ambitions que vous, Thierry Clotu ?
C'est pas de perdre espoir. C'est d'avoir tout le temps la niaque, d'aller chercher. Des idées, de se battre pour ce qu'on veut et puis vraiment aller jusqu'au bout. Et puis il y a de toute façon des écueils qui viennent se mettre au milieu du chemin, mais il faut avancer et puis il faut vraiment avoir la volonté d'y arriver. Et puis quand on a la volonté, tout le reste suit, quoi.
Et puis votre entreprise va plus ou moins bien puisque vous avez engagé un employé, c'est juste ?
Voilà, exactement. Il y a un peu plus de 2 semaines maintenant. Il a débuté avec moi en conception et ça se passe, en tout cas jusqu'à maintenant, parfait.
Voilà. Sortie de boîte s'achève ici. Nous étions en compagnie de Thierry Clotu ce soir, concepteur d'habillage horloger qui a créé sa propre montre. Cet entretien est à retrouver sur notre site internet dans le courant de la soirée avec également des photos. Merci beaucoup Thierry Clotu d'avoir été notre invité. Bonne soirée.
Merci beaucoup, merci pour l'invitation.
Avec plaisir. Jeudi prochain, Sortie de boîte fera feu de tout bois. Nous recevrons le directeur du groupe Corba qui travaille dans le sillage, l'emballage, la charpente de bâtiments, les parquets, les traverses de chemin de fer, les pelets et j'en passe. Bref, il a la passion du bois, Gauthier Corba, et il sera notre invité la semaine prochaine, même heure, même endroit. D'ici là, très belle soirée.